Sol majeur.
Sol majeur.
Sol majeur. Benson Diakité.
Femme nue, femme noire, elle affirme que c'est le soleil qui l'a brûlée dans la plantation. Et lorsque sa maman a eu un amant, elle se demandait comment cuisiner son mari à l'africaine. Dans son Cameroun natal, la petite fille du réverbère a grandi au sein d'une famille nombreuse. Arrivée en France à l'âge de 17 ans, elle passe son bachot, puis poursuit ses études de gestion et de lettres. Dans un élan d'amour sauvage, la négresse rouge rencontre l'homme qui lui a offert le ciel. Croyant avoir perdu les honneurs, en ses qualités d'afro-française, elle a écrit une lettre à ses compatriotes pour leur dire de l'appeler Tanga, chevalier des arts et des lettres de la République française. Ses œuvres ont été récompensées par plusieurs distinctions, même les arbres en parlent encore. Femme engagée, c'est au bras du petit prince de Belleville qu'elle a critiqué la sous-représentation des minorités visibles dans le paysage audiovisuel français. À 16, l'Africaine, dont la carrière d'écrivaine a débuté à l'âge de 23 ans, est une partition sur papier glacé en sol majeur aujourd'hui sur RFI. Bonjour Calix Bella.
Bonjour.
Alors, vous avez publié « C'est le soleil qui m'a brûlé », votre premier roman, en 1987, et depuis, vous n'avez pas arrêté. Votre compteur affiche aujourd'hui 18 publications. Qu'est-ce qui vous fait courir comme ça?
Ben non, justement, je suis très paresseuse, je ne cours pas. Je vais dire qu'effectivement, on a l'impression que j'ai beaucoup écrit, mais si je n'avais fait que cela, j'aurais peut-être publié 40 romans ce jour.
Et qu'est-ce qui vous inspire?
Ce qui m'inspire, c'est le quotidien, ce sont mes propres souffrances, ce sont mes propres angoisses, c'est la vie, c'est un moment donné, un éclat qui passe, une expérience, un besoin de dire, un besoin de crier, de clamer. C'est tout un ensemble qui m'amène comme ça à l'écriture, que j'exècre par ailleurs, parce que c'est quand même un travail très très dur, c'est un travail de forçat.
Est-ce que vous écrivez dans le silence ou accompagné d'une belle musique?
Non, j'écris dans le silence absolu. Quand j'écris, il ne faut pas qu'il y ait le moindre bruit. La musique pour moi est le moment de détente. Le soir, quand j'ai fini d'écrire, j'aime bien me faire accompagner par un musicien.
Donc, on vous propose cette détente avec cette première chanson. De voix de la soul gospel afro-musique Aretha Franklin. Alors, vous l'avez, Vous avez découvert cette chanson comment?
Tout à fait par hasard. Je me rappelle que c'est dans les années, très tardivement d'ailleurs, dans les années 90. Donc un jour, j'étais chez un ami qui avait mis cette musique-là. Effectivement, j'ai demandé qui est-ce. Elle m'a dit Aretha Franklin. J'ai dit j'adore cette voix. Et c'est comme ça que j'ai commencé à l'écouter. J'ai tout d'Aretha Franklin. J'écoute tout d'Aretha Franklin.
Calice, vous êtes né à Douala, la capitale économique du Cameroun, sixième d'une famille de 12 enfants. Étiez-vous tous les 12 de la même mère, du même père?
Pas du même père, de la même mère, oui. Moi, je suis seul dans la fratrie. Hein. Moi, j'ai pas de... Je suis un enfant né entre deux mariages. Donc voilà, je suis... En fait, je n'ai que des demi-frères et des demi-sœurs que je... avec qui, certains avec qui j'ai des très très bonnes relations, on peut pas savoir.
C'est l'une de ses sœurs d'ailleurs qui vous a élevé?
Absolument, donc effectivement j'ai toujours eu l'art de me retrouver dans des milieux où je suis isolé d'une certaine façon, et ça c'est extraordinaire. Peut-être que ça justifie aussi le fait que j'ai été écrivain, ça justifie beaucoup de choses dans ma vie, ce départ dans la vie, vous savez, nul ne se débarrasse de son enfance.
Alors on va pénétrer tous ces secrets à travers cette émission, mais tout au long de cette émission, Calice, on écoutera votre programmation qui a d'ailleurs commencé avec Aretha Franklin, et vous aurez aussi à répondre aux questions que nous avons dans notre panier magique. Et d'ailleurs, on va y aller tout de suite pour une première question.
Quand on vous demande d'où vous êtes, que répondez-vous?
Quand on me demande d'où je suis très gêné parce que j'ai l'impression d'être de partout et de nulle part. Je m'explique, je vais dire que j'ai grandi au Cameroun, certes, mais je suis arrivé en France très tôt. Après, j'ai voyagé à travers le monde. J'ai pu, comme je le dis souvent, avoir une identité qui se meut, qui se transforme, qui change. Donc, du coup, effectivement, je suis une Africaine qui a une pensée européenne. Je suis d'abord, avant tout, une femme, c'est-à-dire que dans la hiérarchie des choses, une femme écrivain, une femme... africaine, une femme française aussi, et enfin seulement une femme camerounaise. Je vais vous dire pourquoi, parce que pour moi, j'aime pas les identités réduites, ça me gêne beaucoup, et je pense que nous allons de plus en plus vers un monde où les identités des êtres sont complexes et multiples, et j'ai envie qu'on me laisse vivre cette multiplicité de mon identité. Voilà, je vais dire que je ne suis pas que, et souvent les gens m'interpellent comme une femme africaine, je dis je n'ai pas le même destin en réalité qu'une femme africaine de mon village, j'ai le plus le même destin qu'une femme noire de Paris, avec cela comporte que ce soit...
Alors, si vous étiez resté dans votre pays natal, Douala par exemple, est-ce que vous alliez garder cette nationalité camerounaise au lieu d'être une femme du monde?
Ah ben, peut-être que oui, parce qu'effectivement, tout dépend des expériences que l'on vit. Je n'ai jamais eu la nationalité camerounaise d'ailleurs, tiens, sans dire en passant. Hein, j'étais mineur. Ma première nationalité était la nationalité française, il faut le dire aussi. Non, je vais dire que je ne peux pas effectivement penser... On me demande de penser comme une femme qui serait née à Douala, qui aurait grandi là. J'ai grandi là un peu, mais en même temps, j'ai une expérience beaucoup plus internationale, une expérience d'ouverture sur l'univers et sur le monde, un regard qui change.
Mais par votre résidence depuis des années, vous vous considérez quand même comme française maintenant?
Je suis aussi française, mais je ne suis pas que française non plus. Je suis aussi africaine, car tout ce qui touche à l'Afrique me touche profondément. Et je ne peux pas voir l'Afrique blessée sans réagir, comme vous avez pu le voir au fil des années. Je veux dire qu'effectivement, je suis partagé entre cette Afrique que j'aime profondément et cette France à laquelle je suis attaché. Je ne vais pas laisser non plus agresser la France sans rien dire. C'est ça qui est paradoxal chez les gens comme moi. C'est-à-dire qu'on est aussi cette totalité. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on aimerait bien nous définir, nous enfermer dans un carcan. Et c'est pas possible, je suis aussi une Française, je suis aussi une Africaine. Et on ne vous l'accepte jamais.
Alors, est-ce que vous êtes prête à vous débarrasser de votre passeport, de votre pièce d'identité, et dire, bon, moi je suis une femme du monde, citoyenne du monde?
Ah ben écoutez, je pense que j'ai déjà d'autres passeports d'autres pays, et ça m'amuse beaucoup, même si je ne les utilise pas. Je vais vous dire quelque chose qui va vous paraître bizarre. Je me sens par exemple mieux au Burkina Faso, qui n'est pas le Cameroun qu'au Cameroun. Voilà, je me sens plus proche des Burkinabés, je me sens plus proche des Maliens, je me sens plus proche des Ivoiriens, ou même des Gabonais que des Camerounais. Mais c'est ça le grand, c'est ma liberté. Et je vais dire que je ne vais pas choisir un ami parce qu'il est africain, je vais choisir un ami parce que c'est mon ami. Et mes amis les plus proches sont souvent, quelquefois, très souvent même des Blancs. Qui sont très loin de moi par leur culture, qui peuvent être des bourgeois, qui peuvent être des juifs, qui peuvent être peu importe quoi. C'est-à-dire que j'ai un tel fonctionnement que j'ai dit que si on n'a pas une très grande ouverture d'esprit, on ne peut pas entrer dans mon monde. Et mon monde est très métissé par mes enfants, par mes nièces, par mes neveux. C'est une famille où il y a toutes les nationalités, où il y a toutes les couleurs en plus.
Vous voyez, alors je comprends alors ce parcours de votre vie et surtout votre éclectisme musical. Et c'est pour cette raison que vous avez posté à notre platine, sur notre platine, une chanteuse que moi j'aime particulièrement.
If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
ce qui est bizarre concernant ce choix, vous nous avez laissé toute la liberté de vous choisir une chanson. Donc, avec Cédric qui réalise cette émission, nous avons fait le choix de cette chanson merveilleuse.
Que j'adore, parce que Whitney Houston, c'est une femme de ma génération. Je veux dire, au moment où j'étais jeune écrivain, elle était aussi jeune chanteuse. Et j'avais énormément d'admiration pour elle. Nous partageons ensemble, quelque part, en chance d'être dans sa voix, un désir de perfection.
Malheureusement, sa vie oui. N'a pas été...
Et une croyance en Dieu, hein, parce que j'ai aussi cet aspect chez moi. Hein. Je veux dire que je suis très croyante. Et Et cette femme, je vais dire que tout en étant de la même génération, faisant deux métiers totalement opposés, franchement, je trouvais que c'était le symbole de la femme noire telle que j'aurais voulu qu'elle soit, c'est-à-dire de réussite, de beauté, d'intelligence, de foi, parce que nous avons chez nous, chez les Noirs, la spiritualité qu'il ne faut jamais nier. Hein. Nous portons ça en nous, et moi, je vis ça comme ça aussi. Et j'ai trouvé après dommage qu'elle se soit éclatée comme ça, explosée. L'amour tue les femmes. Il faut avoir la force, quelquefois, de renoncer à l'amour pour résister, et elle n'a pas su le faire.
Et vous avez su faire ça dans votre vie un moment?
Ah oui, moi, oui.
Petite. Est-ce que vous rêviez d'être Cendrillon?
Oh non, petite, je ne rêvais pas d'être un Cendrillon du tout. Je pense que c'était des rêves que je n'avais pas. Je rêvais d'être secrétaire, hein, parce que j'étais très pauvre. Donc je ne rêvais pas si haut, je ne rêvais pas si loin.
Alors que représentait une secrétaire pour vous dans votre conception?
C'était quelqu'un qui était capable de donner à manger à ses enfants tous les jours. Pour moi, le rêve, c'était d'être capable de nourrir ses enfants déjà et de les scolariser un minimum dans une petite école du quartier. Je veux dire que je n'allais pas si loin, je n'allais pas si haut, je ne rêvais pas d'un prince charmant qui viendrait m'enlever. Il faut dire que peut-être cela est dû à l'éducation que j'ai reçue. J'ai reçu une éducation par ma grand-mère, par ailleurs, qui avait un siècle de plus que moi. Car on oublie souvent de le signaler, ma grand-mère était une femme du 19e siècle et qui m'a gardé, qui est issue de cette vieille aristocratie africaine avec ce que cela comporte de rigueur.
Avec plusieurs influences à la fois allemande, française et anglaise,
il n'y avait pas ces influences, c'était vraiment l'influence africaine, c'est-à-dire c'était la
traditionnelle.
C'est la fille des rois qui était une héritière et qui malgré les pertes de pouvoir à l'époque gardait encore ce sens de dignité, de grandeur de l'Afrique qu'elle va me transmettre, c'est-à-dire que cette femme va me responsabiliser très vite malgré moi.
Alors elle appartenait à quelle ethnie de votre pays?
Betty. Elle était Betty. Betty. Et donc elle m'a élevé avec cette espèce. Betty qui veut dire seigneur, souvent les gens l'ignorent. Les seigneurs, hein, Betty ça veut dire saint. Donc effectivement, elle va m'élever avec une espèce de rigueur, de grandeur, de vision aussi. Je me rappelle comme nous étions pauvres, quand les voitures des ministres riches passaient et qu'ils tombaient dans des. Enfin, ils passaient par des flaques d'eau et qu'ils jetaient de l'eau bouée sous le corps. Elle disait, mais que des mal élevés. Est-ce que tu sais, ma fille, que ces gens-là n'auraient jamais pu traverser notre cour autrefois? Voilà. Donc c'était ça, sa vision du monde. Donc elle va me transmettre tout ça. Elle va me faire relativiser l'argent, par exemple. Elle va me mettre plus en vue les honneurs, la grandeur, la spiritualité. Je vais grandir dans ça quand même, attention. Donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, on ne se départit pas de son enfance. Et très rapidement, moi, je n'ai pas été une jeune fille, in fine.
Alors vous nous avez tracé le pont, cette passerelle, pour aller à la question suivante.
Que savez-vous de vos ancêtres?
Oh tout, je suis une descendante d'Assangduli, je ne suis pas comme les autres Africains. Assangduli, je suis une Assangduli, oui, je m'appelle Béalba Assangduli.
C'était un roi, un prince?
Absolument.
De la région du littoral?
Du centre-sud.
Du Cameroun.
Voilà, donc effectivement, je suis une descendante directe d'Assangduli. Nous venons du nord de l'Afrique, nous ne sommes pas des Bantous. Ils sont descendus, deux frères en fait, qui se sont installés là. Et chacun va avoir ses épouses et ils vont fonder ce peuple-là, hein, qu'on peut appeler les peuples Eton. Et dans cette peuple-là, donc, il y aura la branche d'Assangduli, qui va être un des plus grands, on va l'appeler d'ailleurs le Christ de l'Afrique. Parce que ça va être pas un marabout, mais un grand, grand, grand guérisseur. Ça, en fait, c'est un peuple, c'est pas une tribu. Hein. D'ailleurs, on pense que ce sont les anciens égyptiens qui sont arrivés là. Hein. Mais on n'a pas la confirmation, c'est-à-dire ceux qui ont fondé les premières dynasties égyptiennes qui sont descendues. Effectivement, on est élevé dans une espèce de grandeur de nous-mêmes, du passé. Voilà. Et donc, effectivement, quand je suis arrivé à Paris, je pense que l'un des problèmes que j'ai pu avoir avec le milieu littéraire parisien, c'était celui-là. C'est-à-dire qu'ils attendaient une Africaine soumise, ils attendaient une Africaine dans leur imaginaire, qui obéira à leur volonté. Ils n'ont pas compris qu'ils avaient devant eux l'héritière d'un trône. Donc,
en sol majeur sur la radio mondiale, nous sommes heureux. Nous sommes en compagnie de la franco-camerounaise Calix Beyala, auteur de nombreux ouvrages. Restez avec nous, on revient dans trois petites minutes juste après la synthèse de l'actualité.